Il se fit donc ce mariage fatal. Mon père, en fulminant sa malédiction, signa un consentement entre les mains du notaire. Il ne parut pas à la célébration, il n'en signa pas les actes, il ne voulut pas me revoir après, comme il avait refusé de le faire avant. Ma mère avait flatté le méprisable Moresquin de ramener bientôt mon père, mais elle n'y put réussir. Je suis arrivé à l'époque de mes malheurs. Tout ce qui vient de précéder n'en est que l'avant-propos. Trouverai-je la force de continuer ? Mon intention est de ne mettre aucun détail. Ils sont tous importants et les plus minutieux auront souvent une relation puissante avec l'avenir. Ma mère eut la fausseté de ne pas m'accompagner à l'hôtel. Cette conduite fut pour moi d'un mauvais augure. À peine ma tante, cette tante qui avait fait le mariage, voulut-elle assister à la célébration. Elle s'en retourna précipitamment chez elle dès que la bénédiction fut donnée. Je demeurai seul avec la famille Moresquin, c'est-à-dire son père, le seul honnête homme de la compagnie, sa mère, très méchante femme, une espèce de basse intrigante, sa tante et deux ou trois autres parents. J'étais accoutumé à voir meilleure compagnie. Je fus étonné, une sorte de frayeur s'empare de moi, et je me demandai plusieurs fois « Où suis-je ? » Les discours, les manières, tout me paraissait étrange. Moresquin et son père étaient les seuls que je connusse. Le second était constamment le même, doux, poli. Le premier commençait à ne pas se gêner. Mais je sens qu'il faut faire le portrait de toute cette famille pour que mes lecteurs puissent en prendre une idée juste. Moresquin père était un homme de 55 ans, doux par caractère, ayant peu d'esprit mais du bon sens. Les manières franches mais communes, la conversation et le style comme les manières. Madame Moresquin était une petite vieille ratatinée, noire, l'œil étincelant, méchante comme la fée Carabosse, à laquelle elle ressemblait, impatiente, hautaine, bavarde, etc. Voici un trait de ce jour même. On servit un plat de petits pois, alors dans la primeur. Lorsque chacun en eut une petite cuillerée, servie par elle-même, elle appela sa cuisinière. « Marie, Marie !» La fille, trop occupée, n'entendait pas. Cependant, quelqu'un reprit une cuillerée de petits pois et m'en servit une autre. Alors, la mère Moresquin s'étrangla pour appeler. « Marie, Marie, venez donc ôter ces pois, ils ne m'en laisseront pas pour demain mon dîner !» Ce trait fit rougir Moresquin fils, qui traita sa mère fort irrespectueusement. Ainsi, on se fâcha dès ce premier repas, car le père se mit du parti de sa femme contre son fils, et je vis le moment où l'on allait s'en prendre à moi de ce que j'avais reçu la cuillerée de petits pois que je n'avais pas demandé. Heureusement, celui qui me l'avait servi, ami de la maison, fit rougir toute la mesquine famille d'une pareille dispute. On se tut. Mais la fille emporta le plat contentieux. Moresquin fils, le héros de la fête, est un petit homme noir, l'œil faux, le visage ignoble et laid, la bouche dégoûtante. Quant aux qualités morales, c'est un monstre. Il est lâche, plat, brutal, rampant, plein d'insolence. Il n'a ni capacité ni vérité. C'est le plus impudent et le plus maladroit des menteurs, le plus bavard, le plus médisant, le plus calomniateur des hommes. La noirceur de son âme surpasse celle de son corps. Il est méchant pour le plaisir de l'être. Il fait les choses les plus odieuses, les plus infâmes, les plus cruelles, dans l'obscurité, pour le plaisir de mal faire. Mauvais fils, mauvais mari, mauvais père, c'est un sujet que la sagesse des lois devrait étouffer, parce qu'il ressemble en un point à ces infortunés que le plus terrible des accidents a plongé dans une rage sans guérison. La tante de Moresquin, tronchière à la porte d'une église parce qu'elle avait perdu la vue en partie, est une espèce d'ancienne entretenue qui, après avoir passé entre différentes mains, a fini par épouser un vieillard veuf, le premier amant de sa jeunesse. Elle a été jolie et basse intrigante. Elle est aujourd'hui petite, ratatinée, méchante, jalouse, comme toutes les femmes de son espèce. Tels sont les personnages principaux de la noce. C'est avec de pareils êtres que se trouvait une fille accoutumée à vivre avec un homme d'un mérite distingué, avec une tante pieuse et polie, qui avait eu des compagnes bien élevées. Un sentiment de frayeur, de dégoût, d'horreur même, se leva au fond de son âme et elle se dit obscurément « Je suis perdue ». Elle regarda autour d'elle. Seule, isolée, sans appui, elle ne voyait que des êtres odieux. Le père Moresquin était le seul qui lui inspira quelque confiance par son air de bonté, l'honnêteté de ses discours et la modération de sa conduite. Cette triste journée s'écoula vite, quoique dénuée d'amusement. C'est qu'une soirée plus désagréable encore devait la suivre. Moresquin, homme vil, bas, le plus corrompu des petits commis, qui le sont plus que les autres hommes, se trouva enfin seul avec une jeune personne modeste, innocente, timide, sans expérience. On s'imagine qu'il va se livrer à la brutalité de son goût, de ses manières, de son caractère. Non, je ne le calomnierai pas. Je ne veux dire que la vérité pure, simple, nue. Moresquin était ivre de joie et il vérifia cette maxime que j'ai lue dans Shakespeare. Le plaisir est le baume de la vie, c'est la vertu sous un nom plus gai. Il semblait que le plaisir eût purifié sa vilaine âme, ou que, me trouvant joli, il ne voulut essayer pour la première fois d'un plaisir délicat. Dès que nous fûmes seuls, il se mit à mes genoux et me dit une suite d'amphigouries qu'il s'efforçait de rendre polie, tendre même. J'étais si troublé que je ne m'apercevais pas de son ridicule. Il voulut me déshabiller. Je le repoussai machinalement et sans trop savoir ce que je faisais. Il employa une sorte de violence et déchira mes manchettes ainsi que mon tour de gorge. Je me mis à pleurer. Il me demanda pardon et continua jusqu'à ce qu'il eût achevé. Il m'enleva pour l'or et se jeta sur moi. Je m'écriai involontairement, le priant de m'épargner et d'avoir pitié de moi. Il sourit en me disant « Je ne veux pas te tuer ». C'est la première fois qu'il me tutoyait. J'étais étonné, comme l'est une jeune personne qui s'est toujours respectée et qui jamais n'avait été exposée à aucune attaque, par la sévérité de son air et de ses manières de voir et d'éprouver les libertés que prennent les débauchés les plus corrompus. Je me défendis. Moresquin ne se fâcha pas. Il tâchait de surmonter les obstacles en n'employant que la douceur et les caresses. Mais j'ai su depuis qu'une partie de ces caresses étaient les libertés les plus criminelles, même de mari à femme. Des obstacles naturels qu'il vantait alors, et même depuis comme une perfection, reculèrent ce qu'il nommait son triomphe pendant 3 jours. Ce fut aussi le terme de son honnêteté. Dès que Moresquin fut parvenu au terme de ses désirs et qu'il eut renouvelé ses plaisirs jusqu'à la satiété, je vis sa brutalité presque sans voile. Il m'avait déguisé jusqu'alors sa pauvreté. Mais dès le 4e jour, il me laissa voir qu'il était obligé d'aller vendre quelques restes de dépouilles de sa première femme. Je voulus l'en empêcher, mais il me répondit crûment « Avec quoi veux-tu dîner ?» Ce mot fut pour moi comme un coup dans la poitrine. Je tombai sur ma chaise et je ne pus me relever. Il sortit. Dès que je fus seul, mes larmes coulèrent. Mais bientôt, l'entendant revenir, je tâchai d'en effacer les traces. Elles étaient trop visibles pour qu'il ne les aperçût pas. Il me jeta 4 louis en me disant « Je n'ai pu avoir que cela, quoique la chose en valût au moins 6 ». « Il est vrai, lui dis-je, c'est ce qui m'a fait de la peine, je sais combien on perd. Il aurait mieux valu prendre quelque autre moyen ou vivre le peu en attendant. »« En attendant quoi ? La mort de mes parents ? Car je n'ai que cette espérance-là. » »« Vous avez vos appointements. » Ici, Moresquin secoua la tête. Je lui dis, Auriez-vous reçu des avances ? » Il ne me répondit pas et sortit. Il avait alors une fille pour le servir. « Madame, me dit-elle, je ne conçois rien à monsieur. Il fallait qu'il fût enragé de vous pour vous épouser. Il n'a pas de quoi vous soutenir, il est sans emploi. Il a vendu pièce à pièce tout le fonds de commerce de sa femme et même de ses effets à lui. » J'écoutais avec saisissement. Enfin, je m'écriais. « Il est sans emploi ?»«
Oui, madame, depuis 3 mois. »
Et quand je lui disais « Mais monsieur, vous voulez épouser cette jeune femme malgré son père, avec quoi la nourrirez-vous » il me répondait « Il vaut mieux qu'elle soit malheureuse qu'à dire que j'en perde la tête comme je fais. Je me jetterais à l'eau si je ne l'avais pas. » « Ah, lui faisais-je, il le vaudrait mieux à présent qu'après, car vous en viendrez là quand vous aurez fait une malheureuse et des enfants si elle reste avec vous assez longtemps pour ça. » J'étais au désespoir. Je me voyais perdu, perdu sans ressources. Je courus chez ma tante lui tout conter. Elle ne pouvait en revenir. Et elle finit par me dire « Prenez garde, ma nièce, cette fille est enragée de ce que son maître s'est marié. Elle est méchante, car il me l'a dit plus d'une fois. Et elle invente tout cela pour s'amuser et vous faire de la peine. Peut-être est-elle de concert avec lui pour vous éprouver. » « Ce serait là une singulière épreuve, répondis-je. » « Vous savez que ce n'est pas un génie, dit ma tante. Au reste, ce qui doit vous rassurer, c'est qu'il a rendu sa première femme heureuse. » Ma tante me calma entièrement par ce discours. Je n'eus d'autre peine que l'humiliation d'être éprouvée par un mari et par sa servante. Je revins chez moi tranquille, mais avec un petit air fier qui donna beaucoup à penser à Catherine, à laquelle je ne parlais plus du reste de la journée. Moresquin rentra sur les 10 heures. Je ne doutais pas qu'il ne vînt de ses occupations. Par la conversation du souper, j'entrevis qu'il avait passé la soirée au café. Mais je gardais cette idée en moi-même, craignant que cela ne fût encore dit exprès pour m'éprouver. J'étais rêveuse. Moresquin me demanda ce que j'avais. « Rien, lui dis-je. Au reste, vous auriez pu vous dispenser de me faire dire je ne sais combien de choses inutiles par Catherine. Il a bien fallu que tu susses la vérité. » À la bonne heure, je la sais. Qu'il n'en soit plus question. Puisque vous n'avez rien et que vous êtes sans emploi, il faut que je travaille en mode. Catherine reportera mon ouvrage et fera la cuisine. » Moresquin me répondit qu'il n'en était pas réduit là, que ses parents étaient riches et qu'il ne souffrirait pas que je travaillasse en mercenaire. Je vis dans cette réponse la confirmation des idées de ma tante et je me tranquillisai. Mais dès le lendemain, pour sortir de mon incertitude, j'envoyai Catherine chez différentes connaissances me chercher de l'ouvrage. Elle y fut et m'en apporta. Je le préparai et me fis aider par cette fille qui me dit « Madame, je vous avertis qu'avec ce train de vie, je ne resterai pas chez vous. Il y aura trop de peine à avoir. D'ailleurs, vous aurez beau travailler. Monsieur fera comme du temps de sa pauvre première. Il aura plutôt fait de manger que vous de gagner. » « À quoi sert tout ce que vous me dites là ? Je sais que sa première femme a été heureuse. »« Heureuse ? Il l'a fait mourir de chagrin. » »« Taisez-vous, Catherine, ce que vous dites là est trop fort, et si monsieur Moresquin est d'accord avec vous pour m'éprouver, cela est fort indécent. » »« Oh, madame, n'allez pas vous aviser de lui redire ce que je vous dis pour vous rendre service. Au reste, vous le connaîtrez à vos dépens, mais je ne le verrai pas. » Car je vous quitte dès aujourd'hui. Je m'en vais, je ne veux pas rester. » »« Vous attendrez au moins que M. Moresquin ait une autre fille. » »« Hé, pourquoi faire ? Allez, allez, madame, vous en passerez bien. » Je ne savais que penser de tout ce que j'entendais. Souvent, je voyais Moresquin grincer des dents d'impatience pour un moment de retard. Il ne s'en prenait pas encore à moi, mais il employait des expressions générales, c'est-à-dire qu'il parlait au pluriel, afin de m'englober. Je le voyais incapable de s'occuper de la maison. Rassasié de moi, il dormait s'il ne grondait pas Catherine au pluriel, ou il jouait stupidement avec son chien, qu'il se plaisait à faire crier. Il était d'une inutilité si profonde que souvent, il me jetait mon ouvrage à moitié fait et me forçait à l'accompagner à la promenade. Je lui demandais si les heures de son bureau ne le gênaient pas. Il me dit enfin avec humeur qu'il allait changer d'emploi, que celui qu'il avait n'était que de 600 livres et qu'il ne suffisait pas. Je lui observai qu'il aurait fallu différer son mariage. Il me serra la main en grinçant des dents et ne me répondit rien. 6 semaines s'écoulèrent ainsi. Mais avant de parler de la première scène qui me regarde, il faut en rapporter une autre qui m'effraya en me faisant connaître Moresquin.